Un premier amour, chapitre 2. Le lendemain matin, lorsque je descendis pour le thé, ma mère me gronda, moins pourtant que je ne le craignais, et me demanda ce que nous avions fait la veille au soir. Je lui répondis en peu de mots, passant beaucoup de détails et m'efforçant de donner au reste l'apparence la plus innocente. « Ce ne sont pourtant pas des gens comme il faut, » répliqua ma mère. « Il est parfaitement inutile d'aller passer ton temps là, au lieu de l'employer à préparer ton examen. » Comme je savais fort bien que les soucis de ma mère au sujet de mes occupations se borneraient aux paroles qu'elle venait de prononcer, je ne crus pas nécessaire de lui répondre. Mais après le thé, mon père me prit sous le bras, m'emmena avec lui dans le jardin et m'obligea à lui raconter tout ce dont j'avais été témoin chez les Assekines. Mon père avait sur moi une étrange influence, et nos rapports étaient fort étranges aussi. Il ne s'occupait presque pas de mon éducation, me parlait même rarement, mais jamais il ne me contrariait ni ne cherchait à m'humilier. Il respectait ma liberté, il se montrait même, s'il est permis de s'exprimer ainsi, poli à mon égard. Pourtant, il me tenait toujours à distance. Je l'aimais, je l'admirais. Il me semblait un homme accompli et grand Dieu. Avec quelle ardeur ne l'aurais-je pas aimé si je n'avais pas toujours rencontré cette main qui m'éloignait impitoyablement. Mais aussi, lorsqu'il le voulait, il pouvait presque immédiatement, par une seule parole, par un seul geste, m'inspirait la plus entière confiance. Mon cœur s'ouvrait, je bavardais avec lui comme avec un ami raisonnable, comme avec un maître indulgent. Puis il m'abandonnait brusquement, il me repoussait de nouveau, d'une main caressante sans doute, mais il me repoussait. Quelquefois il avait des accès de gaieté, et alors il était prêt à sauter avec moi comme un enfant. Il aimait tous les exercices violents. Une fois, une seule fois, il me témoigna tant de tendresse que je faillis en pleurer. Mais sa tendresse comme sa gaieté disparaissait sans laisser de traces, et ce qui venait de se passer entre nous ne me donnait aucun droit ni aucun espoir pour l'avenir. Tout cela s'évanouissait comme un songe. Lorsqu'il m'arrivait d'examiner attentivement sa figure, belle, intelligente et animée, mon cœur tressaillait et tout mon être se sentait attiré vers lui. Il semblait comprendre ce que je ressentais, mais il se contentait de me passer négligemment la main sur la joue et sortait, ou bien il se livrait à quelque occupation, ou bien encore il prenait cet air gracieusement glacial dont lui seul avait le secret. Et alors, moi aussi, de mon côté, je me resserrais et me refroidissais. Ces accès de bonne disposition à mon égard n'étaient jamais déterminés par mes instances muettes mais expressives. Ils venaient toujours à l'improviste. En réfléchissant plus tard au caractère de mon père, je suis arrivé à conclure qu'il s'intéressait peu à moi et à la vie de famille. Il aimait autre chose et en jouissait à satiété. Prendre ce que l'on peut, mais ne laisser jamais prendre, s'appartenir à soi-même. Tout le secret de la vie est là, me dit-il un jour. Une fois, en ma qualité de jeune démocrate, je me mis à raisonner devant lui sur la liberté. Il était dans un de ces jours de bonté, comme je l'ai expliqué plus haut, et on pouvait alors lui dire ce que l'on voulait. « La liberté, » répéta-t-il. « Sais-tu bien ce qui peut donner à l'homme la liberté ?»« Non, » lui répondis-je. « Mais la volonté, notre propre volonté, et elle donne aussi le pouvoir, qui vaut mieux que la liberté. Sache vouloir, tu seras libre et tu commanderas. » Mon père voulait avant tout et par-dessus tout vivre, et il vivait. Peut-être avait-il le pressentiment qu'il ne se serait pas donné de jouir longtemps de ce secret de la vie. Il mourut à 42 ans. Je contais avec détail à mon père ma visite chez les Assekines. Assis sur un banc, il m'écouta d'un air moitié attentif, moitié distrait, et en dessinant sur le sable avec le bout de sa badine. Il souriait par moments, et dans d'autres, il me jetait un regard pénétrant, presque ironique, ou m'excitait par des questions et des observations laconiques. Je n'osais pas d'abord prononcer le nom de Zinaïda, mais je n'y tins pas longtemps et me mis à la porter au nu. Mon père m'écoutait toujours en souriant. Puis il devint pensif, s'étira les bras et se leva. Je me rappelais qu'en sortant de la maison, il avait donné l'ordre de seller son cheval. Il était excellent cavalier et savait bien avant M. Raret dompter les chevaux les plus rétifs. « Mais je vais t'accompagner, papa, lui dis-je. « Non, non, me répondit-il. » Et ses traits reprirent leur expression d'indifférence affectueuse. « Promène-toi seul, si tu le veux, et dis au cocher que je ne sortirai pas. » Il me tourna le dos et s'éloigna rapidement. Je le suivis des yeux. Il sortit par la porte cochère. Je reconnus à son chapeau qu'il avançait le long de la haie, et il entra chez les Asséquines, où il n'y resta pas plus d'une heure, mais il partit aussitôt pour la ville et ne revint à la maison que dans la soirée. Après le dîner, je me rendis moi-même chez les Asséquines. Je ne trouvai dans le salon que la vieille princesse. À ma vue, elle se gratta la tête en passant une aiguille à tricoter sous son bonnet et me demanda brusquement si je ne pourrais pas lui copier une supplique. « Bon, avec plaisir, lui dis-je en m'asseyant sur le bord d'une chaise. « Ayez bien soin d'écrire lisiblement, ajouta la princesse en me tendant une feuille de papier salie. Et ne pourriez-vous pas me faire cela aujourd'hui ? Je la copierai aujourd'hui même. » La porte de la chambre voisine s'ouvrit un peu et Zinaïda parut. Elle était pâle et pensive et ses cheveux étaient négligemment rejetés en arrière. Elle arrêta froidement sur moi ses grands yeux et referma doucement la porte. « Zina, hé, Zina !» criait la vieille. Mais Zinaïda ne répondit pas. J'emportai la supplique et passai toute la nuit à la copier. Ma passion commença ce jour-là. Je me souviens que je ressentis alors quelque chose de semblable à ce que doit éprouver celui qui débute dans un service quelconque. Je cessais d'être simplement un jeune homme, j'étais un amoureux. Je viens de dire que ma passion commença ce jour-là. J'aurais pu ajouter que mes tourments commencèrent aussi le même jour. Je me consumais en l'absence de Zinaïda. Rien ne pouvait m'entrer dans la tête. Je laissais tomber tout ce que je prenais. Je passais des journées entières à penser à elle, sans un instant de répit. Je me consumais loin d'elle. Mais sa présence ne me soulageait pas. J'étais jaloux tout en reconnaissant ma nullité. Je me formalisais bêtement ou rampais non moins bêtement à ses pieds, et pourtant une force invincible m'entraînait toujours vers elle. Et chaque fois que je passais le seuil de sa porte, le frisson involontaire du bonheur me saisissait. Zaïna devina tout de suite que j'étais amoureux, et du reste je ne songeais pas à le lui cacher. Ma passion l'amusait, j'étais devenu son jouet. Elle me cajolait et me tourmentait tout à la fois. Il est doux de sentir qu'on est la cause unique et irresponsable des plus grandes joies et des plus profondes douleurs d'un de ses semblables. Et j'étais dans les mains de Zinaïda comme une cire molle. Du reste, je n'étais pas le seul qui fût amoureux d'elle. Tous les hommes qui fréquentaient la maison en étaient fous. Et elle les tenait tous à la tâche à ses pieds. Elle prenait plaisir à leur donner tantôt des espérances, tantôt des inquiétudes, à les faire tourner suivant son caprice. Elle nommait cela heurter les gens l'un contre l'autre. Et il ne songeait pas à lui résister. À travers l'enjouement constant de son humeur, on pouvait remarquer en elle je ne sais quel mélange intime de finesse et d'insouciance, d'artifice et de simplicité, de vivacité et de calme. Toutes ses paroles et jusqu'à ses moindres mouvements étaient empreints d'un charme délicat et fugitif. Tout en elle révélait une force pleine de spontanéité et d'entrain. Sa figure, d'une mobilité extrême, était toujours en jeu. Elle exprimait presque en même temps la moquerie, la réflexion et la passion. Légers et rapides comme l'ombre des nuages que le vent chasse pendant une journée de soleil, les sentiments les plus contraires se succédaient continuellement dans ses yeux et sur ses lèvres. Chacun de ses adorateurs lui était nécessaire. Elle semblait considérer Belovsorov, qu'elle appelait quelquefois « ma bête féroce », comme le plus dévoué de tous, et il se serait effectivement jeté au feu pour elle, très volontiers. Ne se croyant ni assez spirituel ni assez séduisant, il lui proposait toujours de l'épouser, en insinuant que les autres ne faisaient que bavarder. Maïdanov répondait aux cordes poétiques de son âme. Homme d'un caractère assez froid, comme presque tous les auteurs, il s'efforçait de lui persuader, et s'était peut-être persuadé à lui-même, qu'il l'adorait. Il la chantait dans des vers interminables qu'il lui lisait avec un enthousiasme à la fois factice et sincère. Elle l'encourageait, tout en se raillant un peu de lui. Elle n'avait pas grande confiance dans ses paroles, et après avoir longuement écouté ses épanchements, elle l'obligeait à lui lire Pouchkine, afin, disait-elle, d'épurer l'air. Le docteur Louchine, esprit moqueur, cynique dans ses propos, la connaissait mieux que tous les autres. C'était celui qu'il aimait le plus, quoiqu'il la censurât lorsqu'elle était absente et même présente. Elle l'estimait, mais ne lui cédait rien, et lui donnait parfois à sentir, avec une satisfaction particulière et un peu méchante, que lui aussi était amoureux d'elle. « Je suis une coquette, sans cœur, j'ai une nature d'actrice, » lui dit-elle un jour devant moi. « Soit, mais s'il en est ainsi, donnez-moi votre main, j'y enfoncerai une épingle, et vous aurez honte devant ce jeune homme, vous souffrirez pourtant, monsieur l'homme sincère, vous me ferez le plaisir de rire. » Louchine rougit, se mordit les lèvres, mais finit par tendre sa main. Elle le piqua et il se mit effectivement à rire. Et elle aussi, elle riait tout en enfonçant l'épingle à ses avant et en le regardant fixement, tandis qu'il promenait les yeux de côté et d'autre dans la chambre pour échapper à son regard. Ce que je comprenais le moins, c'était les relations de Zinaïda avec le comte Malevski. Il était bien fait de sa personne, adroit et intelligent, mais il me semblait, même à moi, enfant de 16 ans, qu'il y avait dans ses allures quelque chose de faux et de douteux, et je m'étonnais que Zinaïda n'en fît pas la remarque. Le reste, elle avait peut-être reconnu cette duplicité et ne s'en inquiétait guère. Une éducation excentrique, des relations et des habitudes étranges, la société constante de sa mère, la pauvreté et le désordre qui régnaient dans la maison, enfin la liberté dont elle jouissait, et le sentiment de sa supériorité sur tout ce qui l'entourait, tout en un mot, avait développé chez elle une sorte d'insouciance, à demi dédaigneuse et une grande tolérance. Arrivait-il que Bonifaci vint annoncer qu'il n'y avait plus de sucre, qu'un tripotage indigne se fit jour, ou que des visiteurs se querellassent entre eux, elle se contentait de secouer les boucles de sa chevelure, disait « Oh, ce n'est rien !» et ne s'en inquiétait pas autrement. Quant à moi, tout mon sang s'allumait lorsque je voyais Malevski s'approcher d'elle en se balançant d'un air rusé comme un renard et s'appuyant gracieusement sur le dos de sa chaise, lui chuchoter quelque chose à l'oreille avec un sourire suffisant et insinuant, tandis que, les bras croisés sur la poitrine, elle le regardait attentivement, souriait aussi et hochait la tête. « Mais pourquoi faites-vous bon accueil à M. Manevski ?» lui demandai-je un jour. « Il a de si jolies moustaches !» me répondit-elle. « D'ailleurs, ce n'est pas votre affaire. »« Vous croyez peut-être que je l'aime ?» me dit-elle une autre fois. « Non, je n'aimerai jamais un homme de cette espèce, que je peux traiter de haut en bas. Il me faudrait quelqu'un qui me domptât moi-même. Mais... je ne le trouverai pas, Dieu m'en préserve. Je ne tomberai sous la main de personne, non, non. Alors, vous n'aimerez jamais. Et vous donc, est-ce que je ne vous aime pas ? Me dit-elle en me frappant le nez avec le bout de son gant. Oui, Zinaïda se divertissait beaucoup à mes dépens. Pendant 3 semaines, je la vis presque chaque jour. Que n'imagina-t-elle pas me faire supporter? Elle venait rarement chez nous, ce que je ne regrettais pas. Elle se transformait dans notre maison en jeune personne du monde, en princesse, et je n'osais l'aborder. Je craignais d'ailleurs de me trahir devant ma mère, qui ne l'aimait pas, et nous observait avec méfiance. Je redoutais moins mon père, il avait l'air de ne pas faire attention à moi et s'occupait peu de Zinaïda. Mais lorsqu'il lui adressait la parole, c'était d'un air d'intelligence et d'un ton particulier. Je cessais de travailler, de lire, je cessais même de me promener dans les environs et de monter à cheval. Je tournais continuellement autour du toit bien-aimé comme un hanneton attaché par la patte. Il me semblait que j'y pourrais rester toujours. Mais c'était impossible, ma mère se fâchait contre moi et souvent Zinaïda elle-même me chassait. Alors je m'enfermais dans ma chambre ou me rendais à l'autre extrémité du jardin. Là, je grimpais sur les murs élevés d'une orangerie en ruine. Je m'asseyais, les jambes pendantes du côté de la route. Et je restais des heures entières dans cette posture, à regarder sans rien voir. Auprès de moi, des papillons blancs se traînaient paresseusement sur les orties poudreuses. Un moineau se plaçait hardiment sur quelques briques à demi brisées et criait à tue-tête, la queue écarquillée et en tournant continuellement sur lui-même. Le soleil et le vent se jouaient mollement dans les branches peu fourni d'un bouleau. Des corbeaux méfiants croassaient encore par moments, perchés très haut, au plus haut de sa cime dépouillée. Le son paisible et triste des cloches du monastère du Don arrivait par bouffées jusqu'à moi. Toujours assis, sans bouger, je regardais, j'écoutais, et me pénétrait de je ne sais quelle sensation sans nom qui renfermait tout. Affliction, joie, pressentiment de l'avenir, désir et effroi de la vie. Mais je ne comprenais rien alors à cet état, et je n'aurais pas su définir la moindre des sensations confuses que j'éprouvais, ou peut-être aurais-je donné à tout cela un seul nom, le nom de Zinaïda. Et Zinaïda se plaisait toujours à se jouer de moi comme un chat d'une souris. Tantôt elle faisait la coquette, alors je m'agitais et languissais. Tantôt elle me repoussait subitement, et je n'osais plus m'approcher d'elle, je n'osais même plus la regarder. Je me souviens qu'elle m'avait montré beaucoup de froideur pendant plusieurs jours. J'étais tout consterné, et me glissant avec timidité dans la maison, je tâchais de me tenir près de la vieille princesse, quoiqu'elle grognât et se démenât beaucoup précisément à cette époque. Ses affaires de lettres de change allaient fort mal, et elle avait eu déjà 2 explications avec l'officier de police du quartier. Un jour que je passais dans le jardin près de la clôture dont il a été question, j'aperçus Zinaïda. Elle était assise sur l'herbe, appuyée sur une de ses mains, et ne bougeait pas. Je voulais m'éloigner sans bruit, mais elle leva la tête subitement et me fit un geste impératif. Je restais tout saisi, je ne l'avais pas bien comprise. Elle renouvela son geste. Je sautai immédiatement par-dessus le mur et courus joyeusement à elle. Mais elle m'arrêta du regard et me montra un sentier à deux pas du lieu où elle se trouvait. Dans mon trouble et ne sachant que faire, je me mis à genoux sur le bord du sentier. Elle sourit à peine et me regarda attentivement. Elle était tellement pâle, un chagrin, une fatigue si profonde se lisaient dans chacun de ses traits, que mon cœur se serra et que je balbutiai involontairement. « Mais qu'avez-vous ?» Zinaïda me tendit la main, arracha je ne sais quel brin d'herbe, le mordit et le jeta le plus loin qu'elle put. « Vous m'aimez beaucoup, me demanda-t-elle enfin, n'est-ce pas ?» Je ne répondis rien. Et d'ailleurs, à quoi bon répondre ?« Oui, dit-elle en me regardant comme avant, c'est juste. Oui, ce sont les mêmes yeux, ajouta-t-elle. Elle devint pensive et se couvrit la figure avec les mains. « Tout m'ennuie, reprit-elle à mi-voix. Je voudrais aller à l'autre bout du monde. Je ne peux plus y tenir, je ne sais plus comment m'en tirer. Et qu'est-ce qui m'attend ? Ah ! Que je souffre, oh mon Dieu, comme je souffre ! Mais pourquoi cela ? Demandai-je timidement. Dinaïda ne me répondit pas. Elle se borna à plier les épaules. Je continuai à la regarder, toujours à genoux, et profondément abattu. Chacune de ses paroles avait percé mon cœur. Dans cet instant, je crois que j'aurais volontiers donné ma vie pour qu'elle ne se désolât pas. Je la regardais, et ne pouvant concevoir pourquoi elle se désespérait tant, je me figurais qu'elle était venue, poussée par un accès de douleur insupportable. Je la voyais s'avancer dans le jardin et tomber par terre, comme si elle avait reçu un coup de faux. Tout était lumineux et vert autour de nous. Le vent frémissait par intervalles dans le feuillage des arbres. Une longue branche de framboisier se balançait sur la tête de Zinaïda. Un peu de distance de là, où coulaient des pigeons, et on entendait le bourdonnement des abeilles qui voltigeaient à ras de terre sur l'herbe clairsemée. Au-dessus de nous s'étendait l'azur caressant du ciel, et je me sentais si malheureux. « Lisez-moi quelques vers, » me dit Zinaïda à voix basse, et elle s'appuya sur son coude. « J'aime à vous entendre réciter des vers. Vous chantez en lisant, mais peu importe, c'est de votre âge. Lisez-moi sur les collines de la Géorgie. Mais d'abord asseyez-vous. » Je m'assis. Et lui lut cette petite pièce. Les collines de la Géorgie reposent dans l'ombre de la nuit. À mes pieds mugit l'Araga. Je me sens triste et heureux. Ma tristesse est sereine. C'est toi qui la nourris, toi seul. Rien ne trouble ma langueur, rien ne l'inquiète. Et mon cœur s'enflamme et bat de nouveau. Car elle ne peut pas ne pas aimer. Elle ne peut pas ne pas aimer, répéta Zinaïda. C'est en cela que la poésie est belle. Elle exprime ce qui n'existe pas, et ce qui est non seulement meilleur que la réalité, mais aussi plus près de la vérité. Elle ne peut pas ne pas aimer. Et elle le voudrait, mais elle ne le peut pas. Étant restée un moment silencieuse, Zinaïda tressaillit tout d'un coup et se leva. « Venez chez nous, » me dit-elle en me prenant vivement par la main, « et surtout ne soyez pas fâchés contre moi. J'ai aussi ma peine, moi. Allons, oh, Maïdanov est avec maman. Il m'a apporté son poème et je l'ai quitté. Oh, il se chagrine aussi maintenant, que faire ? Oh, vous saurez un jour, seulement ne m'en veuillez pas. Zinaïda me serra violemment la main et courut en avant. Nous entrâmes dans la maison. Maïdanov se mit à nous lire son assassin qu'il venait d'achever, mais je ne l'écoutais pas. Il récitait d'une voix aiguë ses iambes de quatre pieds. Les rimes s'entrecroisaient et résonnaient comme de petits golos vides et sonores. Et moi, je regardais toujours Zinaïda, et je cherchais toujours à comprendre ses dernières paroles. Ou peut-être un rival inconnu a-t-il soudain fait ta conquête? S'écria tout à coup Maïdanov d'une voix nasillarde. Mes yeux se rencontrèrent avec ceux de Zinaïda. Elle les baissa et rougit un peu. Je le remarquai et en fus glacé d'effroi. Je ressentais déjà de la jalousie, mais c'est en cet instant seulement qu'il me vint tout à coup à l'esprit qu'elle aimait. Grand Dieu, elle aime. C'est de ce moment que je commençais réellement à souffrir. Je me torturais l'esprit, j'embrassais une idée, je la rejetais, et ne cessais d'observer Zinaïda autant que faire se pouvait. Un changement s'était opéré en elle, c'était visible. Elle allait se promener seule, et se promenait longtemps. Souvent, elle ne se montrait pas lorsqu'il y avait du monde à la maison. Elle passait des heures entières dans sa chambre, contre son habitude. J'avais acquis tout à coup, ou du moins je croyais avoir acquis, une grande pénétration. « N'est-ce pas celui-ci ou bien cet autre ?» me demandais-je, en passant en revue avec angoisse dans ma tête tous ses adorateurs. Le comte Malevski, quoique je sentisse quelque honte pour Zinaïda d'être obligé de le reconnaître, me semblait le plus dangereux. Malgré toute ma pénétration, je n'y voyais pas plus loin que mon nez. Et le mystère dont je m'enveloppais ne trompait pas probablement personne. Le docteur Louchine, du moins, ne tarda pas à me deviner. Au reste, il avait aussi beaucoup changé dans ces derniers temps. Il avait maigri, et s'il riait toujours, son rire était plus sec, en quelque sorte, plus méchant et plus bref. Enfin, une irritabilité involontaire et toute nerveuse avait remplacé l'ironie légère et le cynisme emprunté qui le distinguait naguère. « Mais pourquoi êtes-vous toujours fourré ici, jeune homme ?» me dit-il un jour que nous étions restés ensemble dans le salon. La jeune princesse n'était pas encore revenue de la promenade et la voix criarde de sa mère retentissait au second étage. Elle se disputait avec sa femme de chambre. « Vous devriez mettre votre jeunesse à profit et continuer vos études. Au lieu de cela, que faites-vous ? » « Mais vous ne savez pas si je travaille à la maison ?» lui répondis-je un peu confus. Mais pourtant avec une certaine hauteur. Mais que pouvez-vous faire? Vous avez la tête à tout autre chose. Au reste, oh, je veux bien en convenir, à votre âge, c'est dans l'ordre, mais votre choix n'est pas des plus heureux. Ne voyez-vous pas où vous êtes? Cette maison. Je ne vous comprends pas, répondis-je. Vous ne comprenez pas? Ben, tant pis pour vous. Je crois que mon devoir est de vous avertir. Pour nous autres vieux célibataires, il n'y a pas d'inconvénient à venir ici. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Nous sommes passés au feu, rien n'a pris sur nous. Mais vous, qui avez encore la peau délicate, c'est différent. L'air que vous respirez ici vous est contraire. Croyez-moi, la contagion peut vous atteindre. Comment cela? Croyez-vous être en bonne santé? Vous sentez-vous dans votre état normal? Pensez-vous que ce que vous éprouvez vous soit très salutaire? Mais qu'est-ce que j'éprouve? Lui dis-je, tout en reconnaissant, sans me l'avouer, que le docteur avait raison, poursuivit Louchine avec une expression qui semblait donner à cette appellation un sens fort désobligeant pour moi. La dissimulation ne vous va pas. Grâce à Dieu, ce que vous avez dans le cœur peut se lire encore sous votre figure. Au reste, oh, à quoi bon vous faire de la morale? Je ne viendrai pas ici moi-même si... Le docteur serra les dents. S'il valait mieux que les autres, mais ce qui me surprend, c'est qu'avec toute votre intelligence, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Demandai-je précipitamment et tout ébahi. Le docteur me regarda avec une sorte de compassion ironique. Je suis bon aussi, il faut en convenir, dit-il, comme s'il se fût parlé à lui-même. Quel besoin ai-je de le désabuser? En résumé, ajouta-t-il à haute voix, je vous le répète, l'atmosphère de cette maison ne vous convient pas. Vous vous y trouvez bien, mais ce n'est pas une raison. L'air d'une orangerie est aussi très agréable à respirer, mais on ne peut pas y vivre. Allez, suivez mon conseil, retournez à vos études. La princesse entra et commença à se plaindre au docteur d'un mal de dents. Zinaïda parut bientôt après. Tenez, monsieur le docteur, reprit la princesse, grondez-la, elle boit toute la journée de l'eau à la glace. N'est-ce pas qu'avec sa poitrine délicate, ça lui vaut rien? Mais pourquoi faites-vous cela? Demanda Louchine. Quel mal cela peut-il me faire? Quel mal, mais vous pouvez y gagner un refroidissement et en mourir. Vraiment, je n'en crois rien. Au reste, ne mourrons-nous pas tous? À merveille, dit le docteur d'un air sombre. À merveille, répéta-t-elle avec vivacité. Croyez-vous que cette existence soit bien agréable? Regardez autour de vous. Eh bien, est-ce beau? Pensez-vous donc que je ne le comprenne pas, que je ne le sente pas? J'éprouve du plaisir à boire de l'eau à la glace, et vous voulez me démontrer sérieusement qu'une existence comme la mienne est trop précieuse pour que je prenne grand soin de ne pas l'exposer en me donnant cette satisfaction? Je ne parle même pas, remarque-le bien, de bonheur. C'est cela, répondit le docteur, caprice et indépendance, je vous reconnais bien là. Toute votre personne est dans ces deux mots. Zinaïda se mit à rire d'un rire nerveux. Vous êtes en retard, cher docteur. Vous êtes un mauvais observateur. Mettez vos lunettes. Il ne s'agit pas pour moi de caprice à cette heure. Me moquer de vous, de moi-même, oh, l'agréable passe-temps. Et quant à l'indépendance, monsieur Voldemar, ajouta-t-elle tout à coup en frappant du pied, ne prenez pas un air mélancolique. Je ne peux pas souffrir que l'on me plaigne. Et m'ayant ainsi apostrophée, elle s'éloigna rapidement. Cette atmosphère vous est contraire, très contraire, jeune homme, me répéta de nouveau le docteur Louchine. Le soir du même jour, les hôtes habituels de la maison Zasekine se trouvaient réunis. J'étais du nombre. La conversation tomba sur le poème de Maïdanov. Zinaïda en fit un éloge très sincère. Cependant, dit-elle, si j'étais poète, il me semble que je choisirais d'autres sujets. Peut-être ce que je vais dire est-il ridicule, mais il me vient quelquefois d'étranges pensées, surtout vers le matin, lorsque je ne dors pas et que le ciel commence à devenir rose et gris. Ainsi, par exemple, mais vous ne vous moquerez pas de moi. Non, 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 crièrent d'une voix tous les assistants. J'aurais représenté, continua-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine et en détournant les yeux, toute une société de jeunes filles, la nuit, dans un grand bateau sur une rivière paisible. La lune brille, elles sont toutes en blanc et couronnées de fleurs blanches, et elles chantent quelque chose qui ressemble à un hymne. Je comprends, continuez, dit Maïdanov d'un air rêveur. Tout à coup s'élève un bruit confus. On entend des rires, des grelots, et au même instant des torches brillent sur le rivage. C'est une troupe de bacchantes qui courent en chantant, poussant des cris. Maintenant, c'est à vous de composer le tableau, monsieur le poète. Mais j'aurais voulu des torches rouges donnant beaucoup de fumée, et aux bacchantes des yeux étincelants sous leur couronne. Et les couronnes devraient être de couleur sombre. N'oubliez pas non plus des peaux de tigre et des coupes et de l'or, beaucoup d'or. Où voulez-vous donc qu'il y ait de l'or? demanda Maïdanov en rejetant la tête en arrière et en ouvrant les narines. Vous le demandez, mais sur les épaules, les mains des pieds, partout. On dit que dans l'Antiquité, les femmes portaient des anneaux d'or aux chevilles. Les bacchantes appellent les jeunes filles du bateau. Celles-ci ont cessé leurs hymnes. Elles ne peuvent plus les continuer. Mais elles ne bougent pas. Le courant les porte vers le rivage. Et voici que tout à coup, l'une d'elles se lève doucement. Il faut s'attacher à bien décrire cela. Elle se lève doucement, à la lueur de la lune. Ses compagnes ont peur. Elle franchit le bord du bateau. Les bacchantes l'entourent, disparaissent dans la nuit, dans l'ombre. Représentez ici la fumée des torches, et puis tout se confond. On n'entend plus que des rugissements, et la couronne de la jeune fille est restée sur le rivage. Zinaïda se tut. « Oh, elle aime, me dis-je de nouveau. »« C'est tout ?» demanda Maïdanov. « Oui, répondit-elle. »« Oh, on ne peut pas prendre cela pour sujet d'un poème entier, » observa-t-il avec importance. « Mais je me servirai de votre pensée pour une pièce lyrique. »« Dans le genre romantique ?» demanda Malevski. « Sans doute, oui, dans le genre romantique, byronien. » Quant à moi, je préfère Hugo à Byron, dit négligemment le jeune comte. Il est plus intéressant. Oh, Hugo est un écrivain de premier ordre, reprit Maïdanov. Et mon ami Tokonchiev, dans son roman espagnol, El Toreador. Ah oui, c'est ce livre avec des points d'interrogation renversés, demanda Zinaïda. Oui, c'est l'usage chez les Espagnols. Je voulais dire que Tokonchiev. Allons, vous allez de nouveau commencer à vous disputer sur le classicisme et le romantisme, reprit Zinaïda. Mettons-nous plutôt à jouer. Au gage touché, dit Louchine. Non, cela m'ennuie. Jouons aux comparaisons. C'est Zinaïda qui avait inventé ce jeu. On nommait une chose. Chacun essayait de la comparer à une autre, et celui qui le faisait avec le plus de bonheur recevait un gage. Elle s'approcha de la fenêtre. Le soleil venait de se coucher à l'instant. Des nuages rouges et allongés se dessinaient sur le ciel. « À quoi ressemblent ces nuages ?» demanda Zinaïda. Et sans attendre notre réponse, elle ajouta « Je trouve qu'ils ressemblent à ces voiles de pourpre qui flottait sur le vaisseau d'or de Cléopâtre lorsqu'elle vint au-devant d'Antoine. Vous rappelez-vous, Maïdanov? Il n'y a pas longtemps, vous m'en parliez. Comme Polonius dans Hamlet, nous décidâmes tous que ces nuages rappelaient exactement les voiles en question et qu'aucun de nous n'aurait pu trouver une comparaison plus juste. Et quel âge avait alors Antoine? Demanda Zinaïda. C'était assurément un jeune homme, répondit Malevski. « Oui, il était jeune, » ajouta Maïdanov d'un ton affirmatif. « Ah, je vous demande pardon, » dit Louchine. « Il avait plus de 40 ans. »« Plus de 40 ans ?» répéta Zinaïda en lui jetant un coup d'œil rapide. « Je rentrerai bientôt après à la maison. »« Elle aime, » murmurait involontairement mes lèvres. « Mais qui ?» Les jours se passaient. Zinaïda devenait de plus en plus étrange, incompréhensible. Une fois, j'entrais chez elle et l'aperçus assise sur une chaise de paille, la tête appuyée contre le bord aigu de sa table. Elle se releva. Son visage était couvert de larmes. « Ah, c'est vous !» me dit-elle avec un sourire cruel. « Venez ici !» Je m'approchai. Elle posa la main sur ma tête, me saisit inopinément les cheveux et se mit à les tordre. « Vous me faites mal, » lui dis-je au bout d'un moment. « Ah, vraiment ? Et moi, donc, est-ce que je ne souffre pas ? Croyez-vous que je ne souffre pas ? Oh, mon Dieu ! » s'écria-t-elle tout à coup en remarquant qu'elle m'avait arraché une petite mèche de cheveux. « Qu'ai-je fait ? Oh, pauvre monsieur Voldemar !» Elle prit avec précaution la mèche, l'enroula autour de son doigt et s'en fit un anneau. Je mettrai vos cheveux dans mon médaillon. Je les porterai à mon cou, me dit-elle en souriant, et des larmes brillaient encore dans ses yeux. Peut-être cela vous consolera-t-il un peu. Maintenant, adieu. Je retournai à la maison, et j'assistai à une scène assez désagréable. Ma mère avait une explication avec mon père. Je ne sais pas ce qu'elle lui reprochait, mais il l'écoutait, suivant son ordinaire, dans une attitude froide et polie. Il partit bientôt après. À la fin de l'explication, ma mère me fit appeler dans son cabinet et s'éleva avec une grande vivacité contre mes fréquentes visites chez la princesse qui, suivant elle, était une femme capable de tout. Je lui baisai la main. Je le faisais toutes les fois qu'il me tardait de finir une conversation et je rentrais dans ma chambre. Les larmes de Zinaïda m'avaient entièrement déconcerté. Je ne savais positivement plus à quelle supposition m'arrêter et me sentais moi-même fort disposé aux larmes. Quoique j'eusse déjà 16 ans, j'étais encore un enfant. Je ne pensais plus à Malevski. Cependant, Melovsolov se montrait de plus en jour plus menaçant et regardait le jeune comte aux allures élégantes comme un loup regarde un mouton. Le fait que je ne soupçonnais plus personne et ne songeais plus à rien. Je me perdais dans des rêveries sans fin. Je cherchais des endroits écartés. Les ruines de l'orangerie étaient ma retraite de prédilection. Je grimpais d'ordinaire sur un mur étroit. Je m'y asseyais, je me sentais si malheureux, si affligé, si abandonné que je me faisais peine à moi-même. Et pourtant, combien ces moments de tristesse m'étaient précieux, comme je m'y abandonnais avec délices. Un jour que j'étais assis là, écoutant le son des cloches et les yeux fixés au loin, un saisissement étrange parcourut tous mes membres. Ce n'était pas une bouffée de vent qui m'avait frappé, ni un frisson qui m'avait pris. Mais un souffle était venu à moi, pour ainsi dire, comme si quelqu'un m'avait tout à coup approché. Je baissai les yeux, et j'aperçus Zinaïda marchant sur la route d'un pas rapide, en robe grise très légère et avec une ombrelle rose. À ma vue, elle s'arrêta, et relevant le bord de son chapeau de paille, elle fixa sur moi ses yeux veloutés. « Mais que faites-vous là-bas à cette hauteur ?» me demanda-t-elle avec un sourire particulier. « Ah, vous protestez toujours de votre amour. Eh bien, sautez donc de là-haut vers moi, sur la route, si vous m'aimez réellement. » À peine avait-elle achevé ces mots que je m'élançai, absolument comme si quelqu'un m'eût poussé par derrière. Le mur avait près de 5 mètres de hauteur. Je tombais sur les pieds, mais le choc fut si violent que je ne pus pas me retenir. Je roulais par terre et restai quelques instants sans connaissance. Lorsque je revins à moi, et avant que j'eusse même ouvert les yeux, je reconnus que Zinaïda était à mes côtés. « Mon pauvre enfant !» me dit-elle en se penchant sur moi. Et le son de sa voix exprimait toutes les angoisses de la tendresse la plus vive. « Mais comment as-tu pu m'écouter ?» Mais je t'aime, moi, allez, rêve-toi donc. Je sentais les mouvements de sa poitrine, ses mains touchaient ma tête, et tout à coup, oh, que dus-je ressentir en cet instant! Ses lèvres douces et fraîches commencèrent à me couvrir la figure de baisers. Elles effleuraient les miennes. Mais Zinaïda comprit sans doute, à l'expression de mes traits, que j'étais revenu à moi. Quoique je n'eusse pas encore ouvert les yeux et se relordre avec vivacité, elle me dit « Allons, levez-vous donc, fou que vous êtes. Voulez-vous rester là, dans la poussière ?» Je me relevai. « Donnez-moi mon ombrelle, » ajouta-t-elle. « Comme je l'ai jetée loin, mais ne me regardez pas comme cela. Quelle folie! Vous ne vous êtes fait aucun mal ? Vous devez vous être brûlé contre les orties. On vous dit de ne pas regarder comme cela. Mais il ne comprend rien, il ne répond pas, continua-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Retournez à la maison, monsieur Voldemar. Nettoyez-vous, et n'osez pas me suivre, sans quoi je me fâcherai, et jamais je... Elle ne finit pas son discours et s'éloigna rapidement. Moi, je m'assis sur la route, mes jambes fléchissaient. Les orties m'avaient brûlé les mains, le dos me faisait mal, et j'avais des étourdissements. Mais le sentiment de bonheur que je ressentais ne se répéta plus dans tout le cours de mon existence. C'était une douleur délicieuse qui me tenait tous les membres et qui se traduisit enfin par des sauts de joie et des exclamations. Effectivement, je n'étais encore qu'un enfant. Je fus si fier et si gai tout le reste de la journée. Je conservais avec une telle vivacité la sensation des baisers dont Zinaïda m'avait couvert la figure. Je me rappelais avec tant de transport chacune de ses paroles, et je caressais tellement mon bonheur inespéré que j'en étais effrayé, et je ne me souciais même pas de voir celle qui m'avait causé ces nouvelles sensations. Il me semblait que je n'avais plus rien à demander au sort, qu'il ne me restait plus maintenant qu'à rassembler toutes mes forces, à pousser pour la dernière fois un profond soupir et à quitter la vie. Mais en revanche, le lendemain matin, en me rendant chez nos voisines, j'étais fort troublé et m'efforçais en vain de cacher mon émotion sous les apparences d'un maintien discret et assuré, comme il convient à celui qui veut donner à comprendre qu'il sait garder un secret. Zinaïda me reçut tout naturellement, sans le moindre embarras. Elle me menaça seulement du doigt et me demanda si je n'avais pas des taches bleues. L'air mystérieux et dégagé que j'avais pris s'évanouit subitement, et mon trouble se dissipa à l'instant même. Je ne m'attendais assurément à rien d'extraordinaire, mais la tranquillité de Zinaïda fit sur moi l'effet d'un seau d'eau froide. Je compris que je n'étais à ses yeux qu'un enfant, et j'en éprouvais un sentiment très pénible. Zinaïda allait et venait dans sa chambre et souriait rapidement dès qu'elle me regardait. Mais ses pensées étaient loin, je le voyais bien. Et si je commençais moi-même à parler de l'histoire d'hier, me dis-je, et si je lui demandais où elle allait avec tant de précipitation, afin de savoir définitivement. Mais je me bornais à faire un geste de la main et me retirais dans un coin. Bielovsolov entra. Son arrivée me fit plaisir. « Je n'ai pas trouvé pour vous un cheval de selle docile, » dit-il d'une voix rude. « Freitag m'en a procuré un, hein, mais il ne m'inspire aucune confiance. J'ai peur. »« Et de quoi ?» répondit Zinaïda. « Permettez-moi de vous le demander. »« Comment, mais vous ne savez pas monter à cheval ? Pourrait bien vous arriver malheur. » Quelle fantaisie vous a passé tout à coup par la tête ? Mais cela me regarde, monsieur, ma bête féroce. Puisqu'il en est ainsi, je m'adressais à Peter Vassilievitch. Mon père se nommait ainsi. Je fus surpris de l'entendre prononcer son nom avec tant d'assurance. Elle semblait ne pas mettre en doute sa bonne volonté. Vraiment, répliqua Bielovsolov. Et c'est avec lui que vous voulez monter à cheval ? Mais avec lui ou avec un autre, cela vous importe peu. Ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que ce n'est pas avec vous.
Pas avec moi, répondit Bielovsolov. Comme vous voudrez, eh bien, soit vous trouverez un cheval.
Mais faites bien attention, que ce ne soit pas une bête trop calme. Je vous préviens que je veux galoper.
Galoper si vous le voulez. Mais avec qui ferez-vous ces parties ? Est-ce avec Malevski ?
Et pourquoi pas avec lui, mon guerrier ? Mais calmez-vous, ajouta-t-elle, et ne vous mettez pas à étinceler les yeux. Je vous prendrai aussi. Vous savez que Malevski est maintenant pour moi
Fif, elle secoua la tête. Vous dites cela pour me consoler, murmura Bielovsorov. Zinaïda le regarda du coin de l'œil. Cela vous console, ô mon guerrier, dit-elle enfin, comme si elle n'eût pas trouvé d'autre terme. Et vous, monsieur Voldemar, viendriez-vous bien avec nous ? Je n'aime pas les réunions nombreuses, balbutiai-je sans relever les yeux. Ah oui, vous préférez le tête-à-tête. Eh bien, la liberté à qui l'aime et le paradis au bienheureux, dit-elle. Et elle soupira. Allez donc, Bielovsorov, remets-vous. Il me faut un cheval pour demain. Oui, mais où prendras-tu de l'argent ? Demanda la princesse. Zinaïda fronça les sourcils. Oh, je ne m'adresserai pas à vous. Bielovsorov me fera crédit. Crédit, crédit, grommela la princesse. Puis elle cria subitement et à pleine gorge. Dunyashka ! Maman, je vous ai fait cadeau d'une sonnette, lui dit sa fille. Dunyashka ! Répéta la vieille. Bielovsorov se retira. Je sortis en même temps que lui. Zinaïda ne me retint pas. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure. Je coupai un bâton dans le jardin et sortis de la barrière. Allons, me dis-je, je vais tâcher d'user mon chagrin. La journée était belle, lumineuse et pas trop chaude. Un vent léger courait joyeusement au-dessus des herbes et se jouait discrètement dans les buissons, remuant tout mais ne dérangeant rien. J'errais longtemps dans les bois, sur les collines. Je ne me sentais pas heureux. J'étais sorti de la maison dans l'intention de me livrer à ma mélancolie. Mais la jeunesse, un temps magnifique, le grand air, le plaisir que procure une marche rapide, le bonheur que l'on ressent à se coucher mollement sur une herbe épaisse, tout cela prit le dessus. Le souvenir des paroles et des baisers de Zinaïda se ranima de nouveau dans mon cœur. Il m'était doux de penser qu'elle devait pourtant rendre justice à ma décision, à mon héroïsme. Que les autres soient préférés, me dis-je, peu m'importe. Ils promettront et ne feront rien. Et moi, que ne ferais-je pas encore pour elle ? Ma tête s'exalta. Je m'imaginais bientôt que je la tirais des mains de l'ennemi. Que, tout couvert de blessures, je l'arrachais d'une prison et mourais à ses pieds. Je me rappelais à ce propos un tableau qui se trouvait dans notre salon. Il représentait Malek Adel emportant Mathilde. Tout en y pensant, j'observais un grand pivert au plumage bigarré qui grimpait lestement sur un bouleau dont le tronc effilé le cachait en partie. Il regardait d'un air inquiet, tantôt à droite, tantôt à gauche, comme un musicien masqué par la queue de sa contrebasse. Bientôt après, je me mis à chanter « Ce ne sont pas les blanches neiges » et finis par la romance alors forte à la mode de « Je t'attends lorsqu'un joyeux zéphyr » Puis je récitais à haute voix l'invocation que Yermak faisait aux étoiles dans la tragédie de Komiakov. J'essayais ensuite de composer quelque chose dans le genre sentimental, et trouvai même le vers qui devait terminer toute la pièce. « Oh, Zinaïda, Zinaïda !» Mais j'en restais là. En attendant, l'heure du dîner approchait. Je descendis dans le vallon où serpentait un sentier sablonneux qui conduisait à la ville. À peine m'y étais-je engagé, que des pas de chevaux retentirent sourdement derrière moi. Je me retournais et m'arrêtais involontairement en ôtant ma casquette, car c'était mon père et Zinaïda qui s'approchaient à cheval, marchant à côté l'un de l'autre. Mon père se tenait courbé en avant et la main posée sur le cou du cheval de Zinaïda, à laquelle il parlait en souriant. Zinaïda l'écoutait en silence, les yeux sévèrement baissés, les lèvres serrées. Je ne vis que d'abord, mais quelques instants après, j'aperçus au tournant de la vallée Bielovsorov, en uniforme de hussard, avec son dolman et monté sur un cheval noir couvert d'écume. Le bon coursier agitait la tête, soufflait et piaffait sous la main de son cavalier qui le retenait et l'excitait tour à tour de l'éperon. Je me rangeai sur le bord du sentier. Mon père rassembla ses rênes, s'écarta de Zinaïda qui leva lentement les yeux sur lui et tous deux partirent au galop. Bielovsorov s'élança sur leurs traces en faisant sauter et sonner le fourreau de son sabre. « Il est rouge comme une écrevisse, me dit Géel. Et elle, pourquoi est-elle si pâle? Elle est à cheval depuis le matin et elle est pâle. » Je doublai le pas et j'arrivai à la maison peu d'instants avant le dîner. Mon père, qui avait changé de costume, était assis, le visage frais et reposé, devant le fauteuil de ma mère, et lisait d'une voix égale et sonore le feuilleton du journal des débats. Mais ma mère ne l'écoutait point. M'ayant aperçu, elle me demanda ce que j'étais devenu toute la journée et ajouta qu'elle n'aimait pas qu'on allât se traîner, et Dieu sait tout, et Dieu sait avec qui. Je me suis promené seul, voulus-je lui répondre, mais je jetai les yeux sur mon père et me tus. Je ne sais pourquoi.